Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
At the Happy Hour. At the Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'Happy Hour, l'émission où l'on peut boire un peu, avec modération, bon on est toujours à l'eau, hein, ça va pas changer. Aujourd'hui on va parler littérature et surtout de BD, pour passer un beau moment une équipe de choc. Eric, salut.
Oui, bonjour les gens.
Alors au programme aujourd'hui
c'est le mois sans tabac.
Ah, et Cyril, tu vas nous parler de quoi?
Je vais vous parler de mon livre préféré.
Parfait, tu devais le faire en plus il y a quelques semaines et...
Ouais.
C'est aujourd'hui. Alors avec nous, Xavier Boulot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste de BD, illustrateur, dessinateur, musicien, lausérien, j'ai rien oublié.
Voilà, oui, c'est ça.
Ok, j'ai tout bon. Vous sortez une nouvelle BD qui s'intitule Les Neiges de Perlou.
Voilà.
Et on va revenir dessus, mais d'abord on va parler de votre parcours. Vous avez étudié la bande dessinée aux Beaux-Arts d'Angoulême.
Ouais.
Alors expliquez-nous pourquoi cet engouement pour la BD et pourquoi les Beaux-Arts d'Angoulême.
Alors l'engouement pour la BD, ça remonte à l'enfance. Ça fait très longtemps que je fais de la bande dessinée, depuis l'enfance. Et du coup, naturellement, après le bac, j'ai voulu m'orienter vers des études artistiques. Et j'ai tenté le concours d'Angoulême, puisque à Angoulême, il y a une classe de bande dessinée. Et voilà, j'ai pu avoir l'entrée au concours et j'ai étudié la bande dessinée pendant 3 ans jusqu'en 2000 à Angoulême.
D'accord.
Quand on étudie la BD, on a déjà son propre style ou on apprend vraiment tous les styles, toutes les façons de dessiner?
Alors, non, on vient avec son propre style. Ça se passait comme ça à Angoulême. On avait son propre style avec quand même quelques contraintes. À l'école d'Angoulême, les enseignants voulaient qu'on maîtrise le noir et blanc avant de passer à la couleur. Mais à part ça, il s'adaptait au style de chacun et il donnait des conseils adaptés en fonction du style de chacun.
Maîtriser le noir et blanc, c'est qu'au crayon, où il y a plusieurs techniques, justement?
Non, il y a plusieurs techniques. C'est plutôt à l'encre, le noir et blanc. Le crayon, c'est le travail du crayonné. Et après, on décalque le crayonné sur une feuille blanche à l'encre noire. Et maintenant, aujourd'hui, avec des outils numériques, si on veut, également.
Cyril, tu avais une question?
Oui, vous disiez tout à l'heure que vous aimez la BD depuis assez jeune. Mmh. Je me demandais, vous en lisiez beaucoup? Vous avez des...
Oui.
Que vous aimez particulièrement?
Oui, oui. Après, moi, j'ai, comme beaucoup, j'ai découvert d'abord les classiques. Alors, bien sûr, Tintin, Black et Mortimer. Après, des un peu moins connus, mais qui pour moi sont des classiques... Il y a l'auteur Fred qui a fait la série des Philémon, une bande dessinée des années 80, très poétique et très à la fois fantastique et très proche de la nature. Et moi, ça m'a toujours interpellé parce que dans ma bande dessinée, j'aime bien faire sentir une proximité avec la nature.
Et du coup, vous avez publié 4 BD. Depuis,
oui.
C'est ça. Les balades de Bluesmanoïd.
Alors non, alors dans l'ordre chronologique, en fait, il y a d'abord eu une bande dessinée en noir et blanc, donc de science-fiction, Planète Venimeuse. Ensuite, en effet, la balade de Bluesmanoïd. Un tout petit peu plus tard, Bluesmanoïd 2. Et puis là, maintenant, donc, j'ai sorti Les Neiges de Perlou.
Alors, du coup, c'est surtout de la science-fiction.
Oui.
Il y a beaucoup de science-fiction. Pourquoi ce thème en particulier?
Pareil, ça remonte à l'enfance. La science-fiction, ça m'a toujours plu. Que ce soit au cinéma, en littérature ou en bande dessinée. Et donc, j'aime la science-fiction, j'aime en lire, en voir au cinéma. Et du coup, j'aime aussi inventer des récits de science-fiction. Je trouve que la science-fiction, ça permet beaucoup de liberté quoi, dans les scénarios.
Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur cette première BD? C'est une BD en noir et blanc que vous avez faite. Donc, comme vous le dites, comme en cours, en fait, on apprend d'abord le noir et blanc. Et pourquoi, du coup, avoir commencé par le noir et blanc?
Justement, c'est peut-être influencé par mes études. j'ai voulu faire une première BD en noir et blanc, aussi peut-être pour le côté économique, parce que quand on... Pour une première BD, j'étais pas sûr de trouver un éditeur. D'ailleurs, j'ai pas trouvé d'éditeur pour cette BD. Et du coup, je me suis dit que si elle était à mes yeux réussie, je chercherais quand même à l'auto-éditer. Et donc, c'est moins cher de faire une auto-édition en noir et blanc. D'accord. Donc, voilà.
Et comment ça marche, justement, l'auto-édition ?
Oh, ben, c'est très simple, en fait. L'auto-édition, il suffit d'avoir... disons qu'il faut avoir un peu de budget, puisque... On finance soi-même l'impression de sa bande dessinée. Donc du coup, c'est des tirages limités. Moi, en moyenne, mes tirages sortent à 200 exemplaires. Je les vends en circuit court. Voilà, je les vends sur la Lozère et j'essaie de sortir du département pendant les festivals BD régionaux pour les vendre directement en dédicace sur les petits festivals.
D'accord.
Et du coup, l'auto-édition, on passe non pas par un éditeur, mais on s'adresse à un imprimeur. Voilà.
Et du coup, on va revenir sur votre dernière BD, parce que c'est quand même l'actualité aujourd'hui. Les Neiges de Perlou. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de l'histoire ? Qu'est-ce que c'est exactement, cette histoire ?
Alors, Les Neiges de Perlou, donc, c'est une histoire vraiment de science-fiction qui se passe dans l'espace. L'histoire, en fait, c'est dans un futur à l'aube du quatrième millénaire. L'histoire met en scène un agent, une jeune femme qui s'appelle Neva Comet, qui est un agent des forces de l'Union Galactique. Donc, c'est une sorte de puissance, on va dire, scientifique, militaire, qui essaie de gérer les conflits à l'échelle de la galaxie. Et dans cette histoire, justement, on a repéré, non loin d'une planète isolée, qui s'appelle Perlou, un objet massif qui fonce droit sur elle et qui menace de la détruire. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'un astéroïde, d'un objet, d'un géocroiseur naturel, ou d'un vaisseau spatial qui chercherait à détruire cette planète pour des raisons obscures. Et on envoie donc une équipe dont fait partie Neva Comet pour aller voir de quoi il s'agit et intervenir pour sauver la petite planète si elle est attaquée.
Eric.
Et là, c'est amené à être un album pour plusieurs albums, justement, pour une histoire, une sorte de saga.
Alors, en fait, j'aimerais bien mettre en place une saga avec des personnages récurrents. Pas forcément toujours Neva Comet. Il pourrait y avoir les aventures de Neva Comet et les aventures d'autres héros qui feraient partie tous de l'Union Galactique. Donc c'est assez ambitieux parce qu'il faudrait faire plusieurs tomes pour chaque personnage. Mais là, bon, j'en suis au premier tome d'une aventure donc de Neva Comet. Et j'ai terminé l'histoire pour qu'elle soit, pour qu'il y ait une fin, mais une fin ouverte. C'est-à-dire que si j'ai l'opportunité, j'imaginerai une suite.
Et comment on part ? On part d'abord de l'histoire ou d'abord du dessin ? C'est quoi qui inspire dès le début ?
Alors moi, souvent, je commence une histoire avec une image en tête. Par exemple, pour Les Neiges de Perlou, je pensais à un décor. Un décor inspiré d'un univers de science-fiction, de films. Enfin bon, j'ai une idée qui est précise d'un décor qui m'est venu en tête. Et de là, après, j'ai tiré un peu le fil de mes idées. Et à partir de cette image, j'ai construit une histoire de fil en aiguille, quoi. Mais au départ, moi, c'est souvent une situation... c'est pas forcément un personnage ou une idée générale qui est le point de départ pour raconter une histoire, c'est souvent juste une petite scénette, un décor ou une situation particulière.
Combien de temps vous avez mis pour faire cette BD ?
Alors, cette BD, j'ai mis à peu près, on va dire, quelques mois, 10 mois pour faire le scénario et le brouillon de la BD, le plan. Et après, à partir du moment où j'avais le plan bien calé au brouillon, il m'a fallu à peu près 1 an pour faire le crayonné, l'ancrage et la mise en couleur.
Et qu'est-ce que vous préférez justement dans la couleur ? C'est... Enfin, la couleur ou le noir et blanc ?
Moi, je préfère la couleur.
Pourquoi ?
Parce que si je pouvais, si j'avais le temps, je ferais de la bande dessinée, je ferais de la musique et je ferais de la peinture aussi. Et du coup, la peinture, la couleur, ça, c'est un côté pictural. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser la couleur en bande dessinée.
Et donc maintenant, vous travaillez en numérique ou c'est d'abord tout sur... Tout d'abord en dessiné vraiment
sur papier
alors, avec les couleurs sur papier ou c'est tout directement en numérique ?
Non, moi je mélange les deux, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est crayonné et ancrage en noir et blanc à la main. Après je scanne mes noirs et blancs et je mets la couleur à l'ordinateur. Donc c'est un mélange des deux.
C'est une BD que vous avez aussi auto-édité ?
Oui. Alors pareil, j'ai cherché un éditeur que j'ai pas trouvé pour l'instant. Mais à mes yeux, le travail pour moi était assez abouti par rapport à tout ce que j'avais fait avant. Donc j'avais envie de faire connaître cet album. Donc je l'ai auto-édité. Ouais. Je l'ai auto-édité à 200 exemplaires. Et voilà, ça me permet de faire vivre, de faire connaître mon projet quoi, en circuit court, comme j'ai dit. Donc je le présenterai beaucoup dans les petits festivals en Lozère. Et puis après, pour le prochain projet, je soumettrai toujours mes projets à des éditeurs parce que le but ultime, quand même, pour moi, c'est de trouver un éditeur.
Un éditeur local, peu importe ?
Non, pas forcément local. Au niveau national, il y a des super maisons d'édition en France. Il y en a une pas loin, à Montpellier, les éditions 6 pieds sous terre. Il y a d'autres maisons d'édition qui me plaisent bien en France et en Belgique aussi.
Alors je vais me tourner vers toi, Eric, parce qu'on va faire ta chronique. C'est l'heure de la chronique d'Eric. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous parler ?
Donc je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le mois sans tabac. Donc je demande à un ami s'il n'en profiterait pas pour essayer d'arrêter de fumer. Parce que bon, il tousse souvent, ses doigts deviennent de plus en plus jaunes, voire marrons. En plus, il est parfois dans la dèche, donc bon, je me dis que c'est le bon moment, avec toutes ses qualités, ça peut être très difficile de bien vieillir. Mais non, t'as rien compris, qu'il me dit. J'arrêterai dans les 30 prochaines années, dans une perspective d'amélioration de ma santé. Il arrêtera donc bien de fumer, mais en 2050, quand il aura plus de 70 ans. Enfin, je lui souhaite d'arriver jusque-là. Il m'a confirmé qu'il n'envisageait pas de diminuer à court ou moyen terme, qu'il ne fallait pas faire cela trop vite, pour ne pas perturber son organisme par un changement radical du jour au lendemain, mais qu'il faudrait passer par des phases de transition pendant les 3 prochaines décennies. Peut-être il essaierait la pipe ou la cigarette électronique, pour varier un peu, mais pas de changement radical. Eh bien, la COP26, comme les COP qui l'ont précédée d'ailleurs, c'est un peu ça. Les rapports se multiplient pour nous annoncer qu'il faut changer tout de suite pour ne pas dépasser 2 degrés si on ne veut pas arriver vers un chamboulement climatique, et une dégradation de la biodiversité et de l'ensemble des écosystèmes, et bien on a des promesses de changement pour dans 30 ans. Le problème en vrai, c'est que le rapport du GIEC est un peu long. Alors les dirigeants n'ont pas trop eu le temps de le lire avant la COP à Glasgow, donc ils se sont tous rendus en jet en Écosse, pour gagner un peu de temps, pour lire le résumé du rapport avant de nous vendre leurs belles promesses. Pourtant, le rapport, il fonctionne bien. Enfin, je veux dire, pour nous culpabiliser, nous, les citoyens. Ainsi, depuis quelques années, nous faisons des marches pour le climat. Faut avouer, on a de la chance. Avec le réchauffement, on a toujours eu du beau temps. Et plus personnellement, j'essaye de faire des efforts. Je viens à la radio à pied ou en vélo. Je consomme autant de bambou qu'un panda. Bon, moi, c'est pour les brosses à dents, les couverts pour le pique-nique ou les cure-oreilles. Je ne prends qu'une douche par semaine. Alors, désolé pour mes collègues de la radio, ce sera pour ce soir. Donc bon, voilà, j'ai l'impression de faire ma part. Mais quand on voit cette COP26 et qu'on regarde ces nouveaux engagements, franchement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Je me demande quand même qui sont les plus forts. Les Chinois et les Russes qui ont joué à la politique de la chaise vide, ou les dirigeants occidentaux qui n'ont rien présenté d'autre que leur hypocrisie et leur cynisme. Il ne se cache même plus. Le so crazy British Boris Johnson, à peine son discours fini, fonçait déjà à Londres, en jet, à 30 minutes de vol, pour ne pas rater l'heure de son dîner avec un climato-sceptique. Le président américain dormait pendant les discours des autres. Et l'Australie arrêtera peut-être de faire fumer ses usines à charbon dans 30 ans. Et pendant ce temps-là, des pays comme Madagascar, qui subissent déjà les conséquences des changements climatiques, ne sont invités que dans des conférences, mais pas sur les plateaux télé ou à dîner avec la famille royale. Comble du cynisme. Même Jeff Bezos a été invité pour nous faire la leçon. Jeff Bezos, c'est le type qui consomme autant d'énergie qu'un pays tout entier, rien que pour aller faire un tour de 15 minutes un peu plus près des étoiles. Et ce gars-là est invité pour nous dire comment réduire nos émissions carbone. Non, non, c'est pas une blague. Eh bien, je me dis que le problème, ce n'est pas que le cynisme des puissants, c'est aussi nous, en continuant à acheter sur des sites comme Amazon et en votant pour des politiques qui ne veulent rien changer. Je ne veux pas faire non plus complètement dans le catastrophisme, parce que des solutions existent, et les mêmes scientifiques qui nous alertent nous disent qu'il est encore temps de faire bouger certaines choses et de préserver une partie de la beauté de notre planète. Comme pour beaucoup de choses, si le bon sens commun pouvait reprendre le dessus. Non, en fait, le seul qui aurait pu sauver la COP26, j'y ai bien pensé, c'est Charles de Gaulle. Parce que s'il avait parlé, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu des fausses promesses, mais des actions concrètes pour le climat. Et mon pote aurait certainement arrêté de fumer tout de suite.
Merci Eric. Bon, pour l'instant, ça sent pas trop dans le studio, donc ça va. T'inquiète pas. Alors, on va continuer avec, toujours sur le thème de la BD, Xavier Boulot. Vous serez amende pour le salon du livre pour présenter plusieurs choses.
C'est voilà, ça. Oui.
Dites-nous alors, qu'est-ce que vous allez présenter ?
Alors donc, au salon du livre, je serai présent pour montrer tous mes travaux. Donc bien sûr, Les Neiges de Perlou, mes BD précédentes. Et puis notamment, parmi mes BD précédentes, La Balade de Bluesmanoïd, qui est une BD sonore que j'ai publiée en 2014. Et alors là, c'est une BD un peu différente de mes BD de science-fiction, puisque c'est une BD accompagnée d'un disque de musique. Et on peut lire l'histoire tout en écoutant la musique qui est liée au récit. Voilà. Donc du coup, avec La Balade de Bluesmanoïd, vous avez une bande dessinée accompagnée d'un disque qui est à écouter, si on le souhaite, tout en lisant l'histoire ou séparément.
Et pour toutes vos BD, enfin, en tout cas pour la plupart, vous vous inspirez beaucoup de la Lozère et dans Bluesmanoïd et dans d'autres, les décors des Corps du Tarn sont très présents.
Oui, c'est vrai. Alors, je suis originaire j'ai grandi à Saint-Enimie dans les Corps du Tarn et j'en ai gardé des souvenirs. Je reste très attaché aux Corps du Tarn, aux Cosses. Et ça m'inspire beaucoup pour mettre en scène mes histoires. Et donc La Balade de Bluesmanoïd, précisément, se passe en Lozère, puisque c'est l'histoire d'un personnage solitaire, à l'allure un peu robotique, qui descend le Tarn depuis les sources sur le mont Lozère, jusqu'à la sortie des gorges du Tarn au Rosier. Et donc c'est une balade poétique, presque sans parole, puisque le personnage est toujours seul. Mais c'est une sorte de balade initiatique pour le personnage, puisque au fil de sa randonnée, de son errance le long du Tarn, il va lui arriver quelques péripéties qui vont lui permettre d'en apprendre un peu sur lui-même.
C'est des BD qui sont plutôt destinés aux adultes, aux enfants. Tout le monde peut lire ces vos BD ?
Oui, alors disons que La Balade de Bluesmanoïd, il n'y a aucun problème, même les enfants peuvent la lire. Mais ça s'adresse quand même surtout aux adultes, parce que la musique qui accompagne le récit est une musique, c'est de la musique électroacoustique. Donc c'est une musique assez abstraite, faite de bruits concrets, c'est-à-dire les sons de la nature. Par exemple, quand Bluesmanoïd marche sur un chemin de terre, on entend des bruits de pas dans la terre ou dans les herbes sèches. Et ça, ça a une dimension musicale. Et ça accompagne des notes électroniques de synthétiseurs qui donnent une dimension donc électroacoustique à la musique. Il y a un mélange de sons concrets enregistrés dans la nature et de sons artificiels fabriqués avec des synthétiseurs, ce qui crée une musique assez abstraite, où il n'y a pas forcément de rythme et de mélodie.
On va écouter justement un extrait de votre travail.
Ah oui.
Et puis ensuite, on revient pour en parler.
À quoi tient donc le bonheur ? Est-ce que je sais au juste où je vais ? Il faut savoir où l'on va. Qui me prouve que je suis sur le bon chemin ? Le bonheur est dans le progrès technique.
Voilà, alors on vient d'écouter Slide à fleur d'eau et un extrait de La quête du bonheur. Donc on va d'abord parler de Slide à fleur d'eau. Ça vient de la musique pour Blues Manoïde, c'est ça ?
Voilà, c'est un passage dans la musique de la balade de Blues Manoïde. Et le passage que vous avez choisi, et ce qu'il faut préciser, c'est que là, il est très très blues. Parce qu'il y a un passage à la guitare qui rappelle la musique blues. Mais on entend quand même derrière quelques bruits qui sortent du rythme, des petits sons électroniques et aussi des sons concrets en introduction du morceau et à la fin aussi du morceau. Et puis il y a d'autres parties de la BD où c'est beaucoup moins blues et beaucoup plus abstrait, comme je disais, beaucoup plus électroacoustique, avec... pas de rythme, pas de mélodie, mais où on peut, si on ferme les yeux et on se laisse porter par le son, s'immerger dans un paysage sonore exotique, je dirais.
Et la quête du bonheur, du coup, c'est quand même plus abstrait. Et enfin, il y a un petit peu d'humour, si on peut dire, dans cet extrait. Ça vient d'un album, c'est ça ? C'est pas du tout pour la BD, ou si aussi on peut l'écouter avec une
BD ? Non, c'est pas de la BD. Oui, parce qu'en fait, je fais de la bande dessinée, je fais aussi de la BD sonore pour mélanger le dessin et la musique. Et puis, je fais aussi de la musique purement électroacoustique, sans image, destinée à être écoutée, soit sur disque, puisque j'ai sorti un disque de musique électroacoustique, La quête du bonheur, cet été. Mais je le joue aussi en concert. Donc, on peut écouter cette musique également en concert, en live. Voilà.
D'accord.
Vous travaillez toujours tout seul ou...
Oui, je travaille seul. Après, si je faisais des rencontres, si je rencontrais des personnes avec qui je pourrais avoir des affinités, j'aimerais bien essayer de collaborer, par exemple, faire le dessin pour la musique d'un musicien. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, l'occasion ne s'est pas encore présentée.
Vous avez donc du coup travaillé, enfin en tout cas vous êtes allé au conservatoire de Nîmes, c'est ça ?
Oui.
Pendant 3 ans ?
Oui, ça c'est après avoir étudié les Beaux-Arts d'Angoulême, après avoir eu mon diplôme aux Beaux-Arts d'Angoulême, je suis parti étudier la musique électroacoustique, ouais. J'ai découvert la musique électroacoustique pendant mes études aux Beaux-Arts d'Angoulême et ça m'avait beaucoup interpellé. Et du coup, j'ai voulu compléter ma formation artistique en abordant la dimension musicale avec la musique électroacoustique. Et je connaissais la musique électroacoustique d'un point de vue, pour l'avoir entendue en concert. Et quand je suis allé au conservatoire de Nîmes en classe de composition électroacoustique, j'ai découvert le solfège de la musique électroacoustique qu'on appelle le solfège de l'objet sonore, qui a été inventé par Pierre Schaeffer dans les années 1950. C'est l'inventeur de la musique concrète. Et donc il a inventé aussi le solfège de l'objet sonore pour écrire les partitions de cette nouvelle musique, la musique concrète et électroacoustique. Puisque si vous utilisez le bruit du tonnerre ou le ressac des vagues au bord de la mer pour faire de la musique, vous ne pouvez pas faire une partition avec des notes classiques de cette musique, puisque c'est de la musique faite avec des bruits du réel, des bruits concrets. Donc il faut les dessiner graphiquement, et du coup ça fait des partitions dessinées, on dirait que c'est des dessins abstraits. Et quand je suis tombé sur ces partitions, tout de suite j'ai eu l'idée, venant de la bande dessinée, d'un jour, dans un projet, mélanger la partition graphique d'une musique électroacoustique et le côté narratif d'une bande dessinée.
Alors du coup, comment vous faites pour créer cette musique? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 3 ans à Nîmes?
En fait, j'ai appris à enregistrer des sons, déjà. Enregistrer des sons dans la nature ou en ville, ou avec des micros et des appareils enregistreurs. Alors au départ, je les ai enregistrés avec des appareils à bande magnétique, c'est-à-dire les vieux appareils des années 50. Mmh. J'enregistrais les sons sur bande magnétique. Et après, on apprenait à les couper, ces sons, à les couper d'une certaine manière pour les remonter à l'envers ou les ralentir, les réenregistrer, mais au ralenti ou accéléré, les transformer. Et ensuite, les monter entre eux pour faire une sorte de puzzle sonore avec des bouts de scotch. Et donc j'ai appris ça, et puis après j'ai appris à mélanger à ces sons concrets et retravaillés. J'ai appris à mélanger à ces sons des sons de synthétiseurs. Et donc j'ai appris à utiliser des synthétiseurs analogiques qui permettent de fabriquer des sons qui n'existent pas dans la nature, qui sont artificiels.
Je suppose que la Lozère, du coup, c'est quand même un terrain pas assez intéressant pour tout ce qui est nature, tous les sons. Vous pouvez créer énormément.
Voilà, ça c'est vrai qu'en Lozère, pas plus tard qu'hier, je me promenais sur le Causse en fin de journée avec mon chien. Il n'y avait pas de vent et je remarquais le silence qu'il y avait. Et je me disais, bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on a une telle qualité de silence. Et au contraire, par contre, dans ce même endroit, au printemps, on a une symphonie de chants d'oiseaux, de chants d'insectes, pareil qu'on n'entend pas partout. On a de la chance en Lozère d'avoir une nature préservée, avec riche en musique.
Vous en profitez pour vous créer une base de données, justement, avoir toujours, être prêt toujours à enregistrer un son pour pouvoir l'utiliser un jour ou un autre, ou vous allez vraiment chercher des sons quand vous en avez besoin?
En fait, oui, je vais chercher des sons quand j'ai envie d'aller dans la nature et de capter des sons de la nature. Et puis après, ça constitue une banque de sons que j'alimente au fil des années, que je garde, et je pioche dedans pour mes projets. Mais disons que voilà, je fais plutôt comme ça. Je ne vais pas chercher les sons spécifiquement pour un projet. J'aime bien aller chercher des sons pour l'idée de partir à la chasse aux sons. Et après, je me sers, je puise dans ma bibliothèque de sons que j'enrichis après chaque balade dans la nature.
Et donc là, ça c'est pour la BD, mais vous faites aussi des concerts assis, c'est ça? Est-ce que vous pouvez préciser un peu comment ça se passe, ces concerts assis avec de la musique électro comme ça?
Alors en fait, depuis peu, j'ai finalisé un set de musique électroacoustique qui dure à peu près 30-40 minutes. Et donc ça, c'est de la musique que j'ai sortie en disque cet été et que je joue en concert. Par exemple, j'ai fait cet été, j'ai joué au relais de l'Espinasse dans les Cévennes. Et puis, j'ai aussi joué au village de Saint-Pierre-des-Tripiers, justement, sur le Cosmé-Jean. Et donc là, le public, c'est un concert assis. Ça pourrait être même un concert couché, puisque la musique électroacoustique, il arrive que lors de concerts de musique électroacoustique, on propose des transats ou des tapis pour s'allonger. Parce que la musique s'écoute vraiment. La musique électroacoustique, c'est une musique qui s'écoute les yeux fermés, souvent. Parce qu'on doit se laisser porter par des sons qui peuvent évoquer des paysages abstraits dans lesquels il faut se laisser glisser.
Et là, vous cherchez des dates, vous avez des dates, c'est ça?
Et là, oui, je cherche des dates. Alors, ma prochaine date de concert, ce sera le 29 janvier à L'Encrier, à Florac. Et puis après, je cherche des dates pour cet été, pour... Voilà.
On va passer à la chronique de Cyril. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler littérature, encore une fois.
Et oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, effectivement, souvenez-vous, la dernière chronique, je vous avais dit que je vous parlerai de mon livre préféré et le temps est enfin venu. Avant toute chose, il m'a été offert par un ami très cher que je tiens à saluer au passage. Il y a de ça quelques anniversaires. Et même si je ne suis pas un lecteur très aguerri, une fois que j'ai commencé à le lire, j'en ai lu plus des trois quarts d'un seul coup, tellement je me suis fait aspirer dans cet univers. Ce livre, il s'appelle « Un éclat de givre ». C'est un roman de science-fiction écrit par Estelle Faye, qui est paru en 2014. Avant de parler de l'histoire, parlons brièvement du style d'écriture d'Estelle Faye. J'ai pas grand-chose à dire, j'adore, tout simplement. Avec des mots simples, elle arrive à avoir une prose qui est vraiment envoûtante, et c'est comme si on marchait dans les décors qu'elle décrivait avec le personnage principal. L'histoire, donc, se déroule un siècle après un événement appelé l'Apocalypse, rendant la Terre déserte et stérile. Seules quelques capitales ont survécu, dont Paris, qui est devenue surpeuplée, irréelle, avec la nature tentant de reprendre ses droits sur l'humanité. C'est une ambiance générale qui est assez proche du steampunk, autrement dit une sorte de futur vu par les gens du passé. Le personnage principal est Chet, un garçon de 23 ans qui a toujours connu cette vie-là et qui s'y est donc plus ou moins accoutumé. Il y vit une vie qui est de base assez mouvementée, il chante du jazz dans les bars, il enchaîne les flirts et les histoires sans lendemain avec le premier ou la première venue, et il accepte les petits boulots plus ou moins légaux pour boucler ses fins de mois, ou du moins pour tenter de boucler ses fins de mois. Un jour, alors qu'il chante dans un bar, il va tomber sous le charme d'un homme qui va l'entraîner dans une mission, et cette mission, c'est de défaire un trafic de drogue qui fait un fléau dans la ville lentement mais sûrement. C'est un scénario qui est en surface plutôt simple, mais qui est drôlement efficace. Cette mission, donc, l'amènera lui et, comme il l'appelle, son chevalier blanc, dans les quartiers les plus sordides et enfermés de la ville, dans des recoins qui semblent être hors de notre réalité et voire même hors du temps. Il y a une suite à ce livre qui se nomme Un reflet de lune. Alors, ce livre-là, il est sorti en janvier 2021, et je suis d'ailleurs en train de le dévorer en ce moment même. Et qui sait, peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois. En tout cas, cette chronique-là touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira sûrement mieux demain.
Oui, oui, si ça nous a donné envie de lire. C'est un gros livre ou...
Oh, pas énorme, non. Ça va. C'est un livre de taille normale, quoi.
D'accord, t'as pas le nombre de pages, à peu près.
Oh, non, je suis désolé.
Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que... En parlant de livres, hein, toujours, Xavier, est-ce que vous lisez d'autres choses que la BD ?
Oui, mais je dois reconnaître que je lis peu. Alors du coup, j'ai opté pour la stratégie d'aller droit au but, c'est-à-dire que j'essaie, quand je me décide à lire un livre, je lis pas mal des classiques, français notamment. Par exemple, j'ai lu Belle Amie, La peau de chagrin, voilà, des classiques de la littérature française. Et puis de temps en temps, quand même, comme j'aime bien la littérature de science-fiction, il y a des auteurs comme Dan Simmons. Si vous aimez la science-fiction, lisez Hyperion de Dan Simmons. Bon, ça date, c'est un roman des années 80-90, mais je trouve qu'il y a encore des idées assez incroyables. Et puis, j'aime bien aussi l'auteur de nouvelles fantastiques, Lovecraft.
D'accord.
Voilà,
des récits. Vous pouvez recommander, il n'y a pas de souci sur ces deux sujets-là, enfin, ces deux auteurs.
Dans le fantastique, je recommande Lovecraft, par exemple, Les Montagnes Hallucinées.
Il y a un style qui est bien, lui, ouais. J'aime beaucoup, ouais. Il y a un style qui est bien, lui.
Ouais, très... Des récits fantastiques sombres, ça accroche le lecteur, quoi.
D'accord. En plus de la BD, vous proposez des ateliers aux enfants dans plusieurs classes, plusieurs écoles. Comment ça se passe ?
Ça fait plusieurs années que je propose des ateliers de bande dessinée. Le plus régulier, c'est l'atelier BD que j'anime tous les mercredis après-midi au foyer rural de Florac, en période scolaire. Ça fait, je ne sais plus si c'est la 7e ou 8e année, là. Donc, je propose à des enfants à partir de 8 ans et ados de faire de la BD tous les mercredis, 1h30, et de participer notamment au concours national d'Angoulême à l'école de la BD pour essayer de gagner des prix. On peut gagner un petit fauve d'argent, un petit fauve de bronze, ou on peut aussi gagner un petit fauve d'or à ce concours. Et si on gagne un petit fauve d'or, on est invité au Festival d'Angoulême et on est exposé comme un auteur reconnu pendant le festival. Et ça s'adresse aux enfants et aux adolescents.
Et si on veut s'inscrire, si on est intéressé, ça se passe comment ?
Alors, vous pouvez vous adresser au foyer rural de Florac. Et l'atelier a lieu donc en période scolaire, hors vacances scolaires, donc, tous les mercredis de 13h30 à 15h.
D'accord.
Après, j'ai fait beaucoup d'autres ateliers, j'en ai fait beaucoup dans les écoles. Maintenant, je le fais moins. Je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles, notamment à Mende, également à la maison d'arrêt de Mende.
D'accord.
Et prochainement, je vais travailler avec Timothée Demoury, qui est un artiste qui habite en Lozère, qui est musicien. Ils font de la vidéo aussi. Il appartient au groupe Bocage. Et ils m'ont demandé de collaborer à un projet avec eux qui s'adresse aux ados en situation de décrochage qui sont au CER de Mende et dans un autre centre dont j'ai oublié le nom. Et donc je vais faire un atelier BD avec les ados de ces centres sociaux à Mende.
Avec Timothée Demoury.
Voilà, Timothée, lui, il fera des interventions en lien avec le son, si ma mémoire est bonne. Et moi, ce sera en lien donc avec l'image des ateliers de bande dessinée, en complémentaire avec le travail de Timothée. Je crois aussi qu'il y aura une photographe qui fera des interventions. Et donc moi, je vais intervenir au CER de Mende et à l'UEMO.
D'accord. Eric, tu avais une question ?
Voilà.
Oui, c'est pour... là, vous faites travailler surtout sur le dessin, sur les scénarios, un peu tout ?
Ah oui. Ceux qui viennent à mes ateliers, je leur propose de partir de l'écriture de scénarios jusqu'à la réalisation de leur BD. Et donc, du coup, c'est souvent des projets individuels. Et par exemple, pour le concours d'Angoulême, c'est pas des longs projets. Il faut envoyer 2 planches de bande dessinée maximum. Donc, il faut imaginer une petite histoire.
Et là, cette année, vous allez participer à ce concours ?
Le concours d'Angoulême ? Oui, oui, les inscrits au club BD de Florac, donc que j'anime, ils vont participer au concours d'Angoulême.
D'accord.
On va envoyer leurs planches de BD début mars.
Oui, c'est chaque enfant qui a une planche, c'est pas un travail de groupe ?
Ça peut aussi. Hein. On peut faire une BD collective de 5 planches maximum. Okay. Mais en général, moi, à l'atelier BD du foyer rural, c'est souvent des projets individuels. Chacun fait sa BD et l'envoie à Angoulême.
Dans les projets à venir, donc il y a ce partenariat, enfin ce travail avec Timothée Demoury.
Oui.
Vous avez d'autres projets en lien toujours avec la musique et la BD?
Après, en dehors des ateliers, j'ai des projets que je mène seul pour l'instant. Mon projet actuel, c'est de faire une nouvelle BD sonore. J'ai envie de faire une nouvelle BD sonore en couleur qui abordera le thème de l'écologie, puisque j'ai déjà le scénario en tête. Et parce que la BD sonore que j'ai faite, La Balade de Bluesmanoid, que j'ai faite en 2014, c'est une BD dont il existe une version vidéo. Donc je peux la projeter en public. Il y a une version vidéo qui dure 20 minutes de la BD sonore, mais la musique est déjà enregistrée, donc je projette et j'interviens pas sur le son. Là, dans ma prochaine BD sonore, ce que je veux faire, c'est pouvoir projeter la BD sur écran, case par case, et jouer la musique en live, voilà, sur synthétiseur et voilà.
D'accord. Mais ça, c'est en cours, vous savez pas encore
C'est en cours, en fait. Je viens de terminer Les Neiges de Perlou, donc j'en suis qu'au début de ce nouveau projet. Et ce que je peux vous dire, c'est que donc il y aura mon but, ce serait de faire une bande dessinée en version papier avec un disque audio pour pouvoir lire la BD comme une BD classique. Et il y aurait une version vidéo qu'on pourrait aller voir en concert où là, je jouerai la musique en live. Okay. C'est pas encore fait, mais c'est mon projet pour l'année à venir.
Ok. Ben, c'est la fin de cette émission. Merci Xavier Boulot d'être venu.
Merci à vous.
Merci à tous les chroniqueurs, hein, Cyril, Eric. On se quitte avec une chanson que tu m'as proposée, Eric. Enfin, l'une des chansons que tu m'as proposée. Je te laisse le plaisir de l'annoncer parce que j'avoue que le nom est un peu compliqué.
Oui, c'est Pure Ma Marca de Tilassine. Alors, c'est que j'avais vu un reportage sur lui où il était parti en Amérique du Sud pendant plusieurs mois avec une vieille caravane qu'il avait transformée en studio. Et en fait, il enregistrait au fur et à mesure de son périple. Et le reportage était juste exceptionnel. Après, il l'a fait aussi dans le transsibérien. Il a fait quand même plusieurs albums comme ça. Donc il essaye d'attraper un peu l'univers local et de l'intégrer à sa musique. Et je trouve ça très, très sympa.
Super. Ben, on écoute Pure Ma Marca de Tilassine, c'est ça?
C'est ça.
Vous pouvez retrouver Happy Hour en podcast sur 48FM. Et l'émission sera rediffusée jeudi à 19h. On se retrouve donc dans 2 semaines. Salut à tous.
dos arenales. Regaba en sangre del bravo Saint-Germain.